Perché non sa voler bene?
Perché non è vero che una donna possa cambiare un uomo.
Perché non sa voler bene?
أنت لاعب الكرة. هل تعرف أن الكرة محرمة؟
You know, I don't see what there is to be cagey about, Mr. Marlowe. But I don't like your manners.
Well, I'm not crazy about you, as I didn't ask to see you.
Mais recueillons-nous plutôt devant l'image de souffrance de ce beau visage de prédateur des montagnes.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre émission de cinéma sur Transistor pour ce 66e numéro. Bienvenue également à Occitane qui, après avoir chroniqué dans deux précédentes émissions, nous rejoint Anastasia et moi à l'animation. Alors cette semaine, notre toilette, agitée par les deux bourrasques que sont Good Time des frères Josh et Benny Safdie et Barbara de Mathieu Amalric. Et ce sont les yeux d'Occitane et Anastasia, donc, et puis de Sarah et Eva qui sont là pour les voir, ces films. Alors, bonjour à toutes les quatre.
Bonjour.
Bonjour.
Alors, en fin d'émission, nous retrouverons également Pierre pour une nouvelle chronique Sérivore. Et puis, Occitane et Anastasia vous donneront quelques petites idées de sortie au cinéma cette semaine. Mais tout de suite, on commence avec Good Time des frères Safdie. À toi, Occitane.
Alors oui, comme tu l'as dit, Good Time des frères Safdie et de ces films qui, au premier abord, vous sautent à la figure. Le spectateur est vraiment maintenu au bord de la crise d'épilepsie 1h39 durant par la poigne ferme de Joshua et Ben Safdie. En effet, Good Time fait de la nuit américaine la toile de fond d'un film aux allures d'action painting, et la nôtre de toile prend des airs de Jackson Pollock. Jusqu'à l'aube, nous suivons la course folle de Connie, interprétée par, attention, j'espère que vous avez les années 2000 bien accrochées, par Robert Pattinson en blond platine. Connie, donc, cherche désespérément à réunir l'argent de la caution pour libérer son frère handicapé mental, Nick, interprété par Ben Safdie, arrêté lors d'un braquage que les deux larrons ont commis plus tôt dans la journée. Une fuite en avant saturée de couleurs, donc, mais aussi de sons, par les riffs de guitare et les accords de synthé composés par Oneotrix Point Never. Mais sans plus tarder, plongeons-nous dans ce trip acidulé. Alors, qu'est-ce que vous en avez pensé, vous ?
C'était une des premières fois depuis quelque temps déjà, quand je suis sortie de la salle, dépourvue d'émotions, épuisée un peu, et c'était vraiment une absorption par le film pendant tout ce temps qu'il a duré, et j'ai aimé, mais d'un amour un peu particulier.
Et bien alors, moi, ça faisait maintenant de longs mois que je regrettais que cette saison 2017 ne m'ait pas encore procuré de vraies claques cinématographiques en dehors des films du répertoire que j'avais pu voir. Bah ça y est, c'est fait. Je suis sorti complètement atomisé par l'énergie qu'il y a dans ce film. On reparlera de Robert Pattinson. Bon, ça fait très longtemps qu'on sait que c'est un grand acteur, mais il a enfin un premier rôle à la mesure de son génie. Il y a une performance d'acteur assez époustouflante, et lorsque je repense à ce prix du jury décerné pour un film à l'énergie déboussolante avec 120 battements par minute, je m'étonne un petit peu que la fadeur que m'inspire 120 battements et occulter cette espèce de torrent d'énergie à l'état pur qu'est ce film.
D'accord. Moi, quand même, il m'a semblé que c'était le genre de film dont on ne peut pas s'empêcher de sortir en se disant on dirait un mélange de tel film avec tel autre et un petit peu de celui-là aussi. C'est-à-dire, par exemple, un mélange de Drive avec Une après-midi de chien et un petit peu de Dario Argento pour un peu lier le tout. Et il me semble que...
Et puis Scorsese. On attend le premier rôle de Pattinson chez Scorsese, d'ailleurs, mais parce que ça irrigue aussi tous ces personnages, toutes ces histoires. Mean Street, c'est pas très très loin.
Oui, il me semble aussi, mais il me semble que du coup, c'était une espèce de pâle copie un peu de tout ça qui, au premier abord, oui, vraiment saute à la figure. Et ensuite, une fois qu'on le revoit, paraît... cocher certaines cases qu'il fallait cocher pour ce type de film très new-yorkais, très arty, très abstrait, très stylisé, etc., avec des flashs de couleurs dans tous les sens, mais qui dépassent pas vraiment le côté...
Mais je trouve justement que, pour le coup, les réalisateurs réussissent à dépassé le jeu des références et bah, cette espèce de carcan d'auto-référence du cinéma arty new-yorkais dont tu parles, réussissent quand même à faire un film qui est d'une extrême cohérence dans son propos, dans le refus de tenir certains propos aussi. Et puis, la démarche artistique modernise quand même un certain nombre de références qui sont finalement plus de l'ordre du cinéma des années 90 peut-être, mais qui sont plus tellement au goût du jour que ça quand on y réfléchit. Les frères Safdie sont quand même un petit peu les tenants d'une survivance d'un cinéma qu'on a plutôt vu se développer dans les années 80-90. Et entre autres, leur utilisation de la musique et de toutes ces basses qui peut faire appel à des cinéastes comme Aronofsky aussi, à des gens comme ça. Et je trouve très 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 judicieuse. J'avais pas l'impression justement d'avoir une liste de références artistiques obligées et de voir un tout qui ne reniait pas toutes les inspirations, mais réussissait à faire quelque chose de cohérent, qui soit pas juste un patchwork d'allusions cinématographiques.
Je suis plutôt d'accord avec Rémi. Pour moi, c'était pas... Évidemment, il y avait des références, mais moi, j'ai pas capté toutes les références non plus. Et pour moi, c'était vraiment quelque chose que j'ai pas vu depuis longtemps. C'était vraiment... Si on parle de cinéma qui sort là maintenant, c'était quelque chose d'inattendu pour moi. Et il me semble qu'il y avait une profondeur qui... Moi, j'ai beaucoup aimé, j'ai été attirée par la bande-annonce. Et là, j'ai découvert qu'il y a quelque chose de plus profond qui se cache derrière une jolie bande-annonce avec Pattinson et tout le monde attiré parce qu'il y a Pattinson. Et justement, j'ai adoré que Pattinson, il est comme ça. J'adore qu'on ne reconnaît pas les acteurs, quand il n'y a pas, quand ils arrivent à dépasser leur...
Enfin.
Mais oui, parce que c'est incroyable quand ils arrivent à dépasser leur rôle des beaux gosses, je sais pas. On a quand même des certains clichés pour des certains acteurs qui apparaissent à peu près dans les mêmes rôles et qui n'arrivent pas à faire quelque chose très différent par rapport à ce qu'ils ont fait. Et là, je pense que Pattinson, d'ailleurs, j'ai oublié le nom de famille du réalisateur qui a joué aussi le frère de
Benny Safdie, qui
et ben voilà,
qui joue, oui. Oui, et qui a un physique assez incroyable, dans vraiment une masse de chair morte qu'il arrive à transformer son visage d'une façon assez impressionnante, presque à l'image de ces masques qu'il revêt à un moment.
Ah oui,
en
justement
fait.
Ouais, c'est incroyable.
Et pour revenir à cette histoire d'énergie, enfin, J'ai eu cette impression que j'avais eu quelques fois auparavant au cinéma, ce moment où, après 10 minutes de film, le générique de début commence et on se dit « Ah oui, c'est vrai, ça avait même pas encore vraiment commencé, mais je suis déjà dedans. » Enfin, c'est...
Oui, oui. Non, mais après, c'est un bel objet qui est entraînant, qui est tout ça, mais il me semble quand même qu'il est un peu trop imprégné par certaines références de l'air du temps, ses couleurs, enfin, c'est des choses qui sont pas des références précises, mais qu'on a... Mais vraiment, bon, j'ai l'impression de les avoir déjà vus un peu partout. Enfin, le coup du cadre est complètement envahi par la fumée rouge des billets quand ils sont dans la voiture. Enfin, ça, on l'a vu dans It Follows il y a quelques années, ou alors les reflets sur la vitre, les reflets sur les vitres qu'on compte même plus dans le film et qu'on a déjà vu dans Carole il y a pas longtemps. Enfin, il y a tout un ensemble de déjà-vus du...
Mais il n'y a clairement pas d'invention formelle total, c'est-à-dire que oui, il reprend énormément de choses. Bon, il y a cette scène de cirque, on a Dame de Shanghai qui est pas très loin non plus, voilà. Mais à chaque fois, c'est fait avec énormément de talent
et c'est cohérent
et sans que ça soit gênant. Et l'esthétique sert vraiment pour moi cette espèce de dynamique qu'il y a dans tout le film entre une brutalité totale et une énorme douceur. Ça passe aussi par ces basses très très agressives, ces gros plans sur lesquels je veux insister, parce que justement les gros plans, quand ça bouge, c'est extrêmement brutal, mais d'un autre côté ça permet d'approcher les personnages de façon très très douce, et ça dit beaucoup de choses sur la relation entre ces deux frères qu'on voit à l'écran et qui se font du mal l'un l'autre parce que l'un est un poids mort pour l'autre, mais en fait le second est un petit peu le caïd qui entraîne le premier, mais malgré tout ils tiennent ensemble parce qu'il y a cet amour fraternel indépassable, et il y a quelque chose de très très beau mais de complètement organique et de très très brut aussi dans ce que montrent ces images, avec plus de finesse que ce qu'on pourrait imaginer à la seule vue de la bande-annonce par exemple.
Après, la relation entre les deux frères n'est pas forcément extrêmement développée. Enfin, le frère handicapé est assez rapidement évincé. Enfin, c'est une difficulté peut-être narrative qui laisse quand même cette impression qu'elle a pu être un petit peu écartée par...
Je suis d'accord, parce que finalement, c'est pas très développé. C'est plutôt, pour moi, c'était plutôt l'histoire d'un seul frère, en fait.
Ouais.
On va pas vraiment... on voit qu'il aime énormément son frère. Mais on voit toute son histoire de ce dépassement. C'est à la fois beau et c'est terrifiant, parce qu'il amène lui-même et son frère dans... À chaque fois, chaque son pas, c'est encore plus terrifiant. Il n'y a pas d'issue. Et il l'amène, cet amour l'amène dans des là où il n'y a plus d'issue. Et justement, je trouve que après on n'a pas eu d'histoire avant ce moment. On a eu quelques traces sur sa grand-mère, voilà, qui l'émerde et tout, mais sinon on n'a pas vraiment. Et pour moi, c'est vraiment l'histoire de son frère.
Là où le scénario réussit à échapper à ça, justement, et j'ai beaucoup aimé ça en y réfléchissant, c'est cette dernière scène sur le générique de fin, où justement on fait luire une toute petite lueur d'espoir. On sait pas exactement laquelle, mais on sent qu'il se passe quelque chose de beau. Et je trouve que cette petite porte ouverte qui permettrait presque de sauver une espèce d'avenir est quelque chose d'assez touchant aussi, encore une fois, d'une attention peut-être des réalisateurs avec les personnages qu'ils ont malmenés pendant tout le film, mais qu'ils aiment beaucoup aussi. Enfin, un rapport, une fois de plus, qui est pas un rapport justement qu'on développe, qui est quelque chose de très très direct, qui passe vraiment sous forme d'une empathie et de quelque chose de très brut. Mais dans cette énergie, il y a peut-être quelque chose comme une tendresse qu'on n'arrive pas à exprimer.
Peut-être.
Je ne te convainc pas, Occitane.
Non, je ne suis pas forcément convaincue. Enfin, moi, il me semble quand même que le personnage de Robert Pattinson, du coup Connie, a quand même une espèce de... Il y a un moment de bascule, il me semble, entre quelque chose qu'il va faire pour libérer son frère et ensuite quelque chose qui va devenir une espèce d'affaire personnelle d'un homme un peu dérangé, un peu... qui refuse une certaine forme de... de s'arrêter, quoi. Enfin, ils préfèrent tout brûler jusqu'au bout. C'est de ces personnages qui brûlent tout sur leur passage et qui, plutôt que de renoncer, etc., en sachant pertinemment qu'en renonçant, ils pouvaient aussi bien sauver son frère, puisque son frère, comme tu le dis, à la fin se retrouve à une échappatoire du fait de son handicap. Et...
Oui, mais après... Après, il y a toute la question autour de la dignité, des choses qu'on a envie de faire soi-même, qui est lancée depuis le début. Mais clairement, le parti pris est de faire de ce film une longue plongée dans le chaos. Et d'ailleurs, tous les personnages secondaires, dont on n'aura peut-être pas le temps de parler, mais sont des obstacles inanimés auxquels on se heurte, comme dans cette fête foraine dont je parlais déjà.
Oui.
Et c'est vraiment complètement chaotique.
Eh bien, merci beaucoup, en tout cas, mais... Peut-être que nous sommes irréconciliables sur ce film, alors on va laisser nos chers auditeurs décider et se faire leur propre avis.
Alors Barbara, donc de Mathieu Amalric, c'est l'histoire de Jeanne Balibar, interprétée par Barbara, ou peut-être l'inverse, je sais plus trop. Alors, je suis pas le premier à faire la petite blagounette, mais c'est vraiment la meilleure façon de tenter de décrire ce film. Alors, on reviendra à tous ces jeux de miroir qui nous perdent un petit peu, parce que peut-être revenir au synopsis, si tant est qu'il y en ait un. Le synopsis qui est donc le suivant: une actrice, Brigitte, alias Jeanne Balibar, donc, joue le rôle de Barbara dans un biopic réalisé par un certain Yves Zand, à savoir Mathieu Amalric lui-même. Ce dernier fantasmant à la fois le film, sa propre vie, l'actrice et la chanteuse, faisant se mêler tout ça dans un grand tourbillon virtuose et amoureux, il faut bien le dire. Alors avant de commencer à en discuter vraiment, je me tourne vers vous, Eva, Sarah, dont c'est la première participation à l'émission pour toutes les deux. Qu'est-ce que vous avez pensé de ce film ?
Bon, alors, pour moi, c'était assez particulier parce que je fais partie des grandes fans de Barbara, qui passent pas une semaine sans écouter Barbara, et aussi des grandes fans de Mathieu Amalric. Et du coup, je pense que c'était quitte ou double, et pour le coup, ça n'a pas marché pour moi. J'ai été coupée de l'émotion par la technicité du film, et son aspect trop peut-être exercice de style. Et du coup, voilà, je n'ai pas aimé. Et je pense aussi que j'y suis allée avec les attentes d'un biopic et que je me suis retrouvée face à un anti-biopic. Et que du coup, en arrivant avec un autre état d'esprit, ça aurait été différent pour moi.
Sarah ?
Alors, je suis arrivée aussi avec les attentes d'un biopic, ce que je n'aurais pas dû faire. Et en sortant du film, finalement, je n'ai pas du tout aimé. Mais en discutant avec une amie, je me suis rendu compte à quel point cette démarche de la part du réalisateur était touchante. Et j'ai mieux apprécié le film avec donc plus de recul.
Alors, je te rejoins un petit peu, même si sur la chronologie, ça s'est peut-être pas passé exactement de la même façon pour moi. C'est-à-dire que c'est quand même un film qu'on apprécie principalement avec son cerveau. Parce que quand on y réfléchit, enfin en fait, on apprécie le fait que son cerveau soit complètement impossible de le saisir dans son entièreté, parce que c'est un truc complètement déroutant et où toute la technique et une véritable virtuosité technique est mise au service de notre déperdition dans ces allers et retours narratifs, si tant est qu'on puisse utiliser l'adjectif. Après, je suis d'accord avec ce que tu dis, Eva, ça devient pesant. C'est-à-dire que à force d'artifices techniques aussi réussis soient-ils, il y a un moment où en fait c'est juste de l'ordre de la fatigue, mais c'est vrai qu'on en sort un peu lessivé par le truc et malheureusement on a parfois un peu la sensation pendant le film, peut-être qu'il aurait fallu ménager quelques espaces de repos aux spectateurs où là vraiment mais alors d'un autre côté c'est ce que tu dis Sarah, on sent la passion, ça c'est un film qui où Amalric avait vraiment voulu tout y mettre quoi. Alors tout peut-être un peu trop, c'est il faut en discuter, mais c'est vrai que c'est quelque chose d'assez d'assez entier dans sa démarche. On parle de sophistication et de virtuosité. On peut peut-être donner quelques exemples. Et le plus criant, c'est l'intégration des images d'archives dans ce film. Alors, je pense que j'avais rarement vu des images d'archives intégrées avec un tel... des raccords qu'on voit si peu quoi. C'est vraiment il réussit à mêler le personnage de Barbara et celui de Balibar en intégrant ces images d'archives au milieu du film. À certains moments on ne s'en rend même plus vraiment compte,
mais justement parce que il y a même pire, c'est-à-dire qu'il y a des images d'archives qui n'en sont pas, c'est-à-dire qu'il joue avec le grain de l'image, avec la texture. Et du coup, on croit que c'est une image d'archive, mais ça n'en est pas. Et de toute façon, il mélange tout parce que parfois, il met la vraie Barbara avec la voix de Jeanne Balibar.
L'inverse.
D'autres fois, l'inverse. Donc, de toute façon, c'est très perturbant. C'est une confusion très, très savante, en fait.
Oui.
Je pense que je n'ai rien à ajouter là-dessus parce que c'est exactement... En fait, j'avais eu un sentiment assez mitigé parce que à la fois, j'adorais cette virtuosité de la part du réalisateur qui finalement perdait le spectateur, et en même temps, en tant que spectateur, je ne trouvais pas cela particulièrement agréable, en fait. Donc,
Oui, parce qu'on en prend vraiment plein la vue. Enfin, c'est, oui. Ouais. Et il y a ça, assez intéressant aussi, et ça dit beaucoup sur la démarche du film, c'est très nombreux champ contre champ, entre le champ et le hors-champ du film dans le film.
Oui, qui fait que nous-mêmes, spectateurs...
On se retrouve spectateurs du tournage.
Voilà, exactement. Ou même acteurs du film.
Oui, ça marche dans les deux sens, et là aussi ça brouille complètement notre rapport au film, quoi, parce que on se retrouve d'un coup propulsé dans le champ, et puis soudain on est témoin de deux films en même temps. Enfin, il y a quelque chose de, encore une fois, de vraiment très déroutant là-dedans. Alors une fois de plus, hein, fatigant, il faut bien le dire aussi.
Maigrisant aussi parfois.
Oui.
Parfois. Et
dans les moments où ça réussit très bien, c'est voilà. Vrai qu'on se laisse.
Quand même. Il y a quand même des moments d'émotion. Je dis pas que. Surtout, c'est les moments justement où ça revient à la simplicité. Il y a un moment, quand elle chante Je ne sais pas dire je t'aime, par exemple, ce moment-là, pour moi, est un vrai moment d'émotion.
Il y a un moment où on joue sur des images d'un documentaire qui sont filmées dans une voiture, et où là aussi, on revient sur quelque chose de très très simple. Et.
Oui, mais justement, c'est un vrai documentaire, ça, de Gérard Verger. Je sais pas si on dit comme ça. Mais du coup, je sais toujours pas si c'est les vraies images du documentaire.
Il y a des vraies images du documentaire qui ont été intégrées au film.
D'accord.
Ouais. Alors on en vient à l'essentiel sans doute de ce film, parce que c'est ce film qui met en place un dispositif assez clair, hein, ce film dans le film, mais qui est jamais vraiment figé dans le déroulement du film. Comment dire ça ? Donc, j'ai l'impression qu'Amalric réussit à faire un biopic qui finalement est presque plus biopic que ne le sont ceux qu'on a l'habitude de le voir, dans le sens où il réussit à nous faire ressentir ce qu'était le personnage plus qu'à nous en montrer une biographie froide et extérieure. Il n'enferme pas le personnage de Barbara dans un schéma narratif qui du coup serait nécessairement incomplet, objectivisant, etc. Et nous la fait approcher en même temps que cette actrice qui essaye de la jouer. Et je trouve le dispositif assez intelligent. Enfin, une fois de plus, c'est quand même un film qui intellectuellement laisse un peu pantois, quoi. Je sais pas, après, Eva, tu fais la moue.
Bon, moi, je suis pas d'accord, parce que je trouve que, justement, on sent que ce qu'il veut, c'est capter l'essence même de ce qui fait l'émotion de Barbara. Mais, justement, je trouve qu'il se retrouve à dépouiller la chanteuse, en fait, à ses accessoires, à ses lunettes noires, son boa, son excentricité, et qu'on se retrouve finalement avec une dépouille de chanteuse, et qu'on fait que glisser sur l'artiste, en fait.
Alors, je te rejoindrai assez, Eva, là-dessus, même si mon avis est toutefois nuancé, parce qu'il y a quelque chose que j'ai beaucoup apprécié, c'est justement le travail de l'artiste qui voudrait donc imiter Barbara. Et il y a une scène notamment où la voix écoutait un reportage sur Barbara, et elle refait ses mimiques et elle le travaille au piano. Et ça, je trouvais que c'était super intéressant, en fait, pour découvrir un peu qui était cette femme. Enfin, c'est à partir de ses manies, parfois, qu'on découvre qui est la personne. Donc...
Oui, et puis je trouve que cette double distance qui est mise entre nous et Barbara, c'est-à-dire qu'on a la distance qui est là parce qu'on la voit souvent à travers le jeu de Balibar, et puis on la voit aussi à travers le regard d'Amalric, le regard complètement fou d'Amalric sur elle, évite une imitation bête et méchante. C'est plus de l'ordre de la réappropriation petit à petit, une espèce de fusion entre ces deux figures de Balibar et Barbara, qui, avant de voir le film, je voyais tout le monde écrire des trucs là-dessus, je me disais, oui, bon, d'accord, les deux se mélangent, mais il y a vraiment quelque chose de ça. C'est-à-dire qu'on arrive à un point du film où il y a certains moments où on est incapable de dire si on est face à la vraie ou à la fausse. En ce sens-là, peut-être que ça nous fait justement approcher la vraie, puisqu'on finit par en avoir l'impression.
Certes, je suis d'accord, mais en fait... Je demande pas un biopic linéaire, chronologique, explicatif, objectif, mais je demande aussi un cinéma un peu plus démocratique, où on puisse aussi ne pas avoir besoin de connaître la vie par cœur de Barbara pour comprendre les allusions qui sont faites. Parce que par exemple, à un moment, on voit Tournier, mais si on ne sait pas que Jacques Tournier a écrit Barbara ou les parenthèses, on comprend pas. Et ça, je trouve que ça pose problème, parce que oui, on peut aborder une artiste par l'allusion, comme par exemple les allusions à sa relation avec son père, qui sont très très fines, je suis d'accord, très très fines, très bien glissées, mais il faut vraiment connaître bien Barbara pour comprendre tout ça. Et ça pose problème, je trouve.
D'un côté, je trouve ça assez juste. D'essayer d'approcher Barbara comme si elle était une fiction, puisque toute sa vie durant, elle a essayé de faire d'elle-même une fiction. Et du coup, ça jette vraiment le regard du spectateur énamouré sur la grande diva Barbara. Ça montre la réussite du personnage qu'elle a voulu se créer. Les limites de ça, c'est que on reste en effet enfermé dans le regard d'Amalric, qui joue un rôle très annexe dans le film, mais qui en fait nous impose sa vision, son regard, et canalise tout le regard en se mettant derrière la caméra. Forcément, il y a de l'autoréférence permanente, mais finalement de l'autoréférence à Amalric. Bon, l'autoréférence, c'est un petit peu le péché mignon du cinéma français. Coucou Arnaud Desplechin. Ça fait peut-être les limites du portrait qui est dressé là, c'est qu'on a un petit peu plus l'impression finalement que s'adresse un portrait du public de Barbara, de la vision qu'on en a d'elle, que de Barbara elle-même peut-être.
Oui, enfin, je suis assez d'accord. Et d'ailleurs, j'avais regretté le fait que finalement, on n'est pas tellement axé, mais c'est ce que tu disais, Eva, à la personnalité de Barbara, à l'individu, en fait, qui était Barbara, pas à l'artiste. Mais j'aurais bien aimé voir la femme.
Mmh. Ouais, je suis tout à fait d'accord. Et aussi, tu parles d'autoréférence, etc. Et puis, bien sûr, en fait, on se rend compte que le Mathieu Amalric s'adresse non pas à Barbara, mais bien à Jeanne Balibar et lui fait une déclaration d'amour à elle. Et point, en fait.
Je serais pas aussi...
À travers Barbara, mais je pense que le dialogue...
Est-ce que c'est pas l'une à travers l'autre?
L'une à travers l'autre.
Il y a cette dimension, mais pour moi, ça vaut dans les deux sens. Bon. Bien, écoutez, chers éditeurs, on vous laissera peut-être vous faire un avis là-dessus. Je terminerai peut-être seulement en parlant... Alors bon, le jeu, on le répétera... Autant de fois qu'il le faudra, le jeu de Balibar est quand même assez, assez époustouflant. Oui. Je pense qu'il n'y a pas de discussion particulière à avoir. L'image et le son sont quand même très très fouillés également. C'est pas du tout facile de filmer un tournage. Enfin, je veux dire, ça oblige de... Au niveau de l'image, c'est quand même super dur de faire des rendus qui soient... qui rendent bien et le pari est complètement tenu. Au niveau du son... Alors évidemment, la voix de Balibar n'est pas celle de Barbara, mais on a quand même connu nettement pire comme tentative de s'en approcher. Et je trouve que là aussi, il y a vraiment un travail du son qui est assez exemplaire.
Et moi, j'ai toujours aimé les acteurs qui chantent parce qu'il y a vraiment quelque chose, en fait. Voilà,
voilà donc Barbara, donc le prix pour la poésie du cinéma au Festival de Cannes, qui a été décerné à... Mathieu Amalric pour ce film. Alors on verra, chers auditeurs, si vous êtes sensibles ou non à cette poésie. Vous pouvez vous faire un avis en salle puisque le film y passe toujours, entre autres chez nos partenaires des cinémas Lumière.
Et tout de suite, nous retrouvons Pierre pour sa chronique Sérivore. Bonjour Pierre.
Bonjour Occitane, bonjour Rémi.
I'm sorry, are you addressing me? Because your authority is not recognized in Fort Kickass.
You've just crossed over into the Twilight Zone.
Where is Jessica Hyde?
Jim. James. Jimothy.
This is the warship Rocinante.
I'm Ron Swanson.
Back in the 90s, I was in a very famous TV show.
Alors, cette semaine, je vais vous parler de BoJack Horseman, une série d'animation produite et réalisée par Netflix, dirigée par Raphaël Bob Walsberg. Voilà, j'ai peur d'avoir écorché son nom. Cette série a commencé le 22 août 2014 en diffusion totale sur Netflix, c'est-à-dire que toute une saison a été mise le même jour. Elle est constituée de 4 saisons, la quatrième étant sortie le 1er septembre de cette année pour un total de 49 épisodes plus un épisode spécial Noël. Alors c'est un format court de 25-26 minutes à peu près, on pourrait dire que c'est le même que les 21 minutes mais le temps de pub utilisé pour compléter l'épisode. C'est une série d'animation, du coup il y a plusieurs acteurs qui participent, qui donnent leur voix aux personnages, notamment dans les personnages principaux Will Arnett qui a le rôle titre de BoJack Horseman, qu'on peut retrouver notamment dans la série Arrested Development, que c'est donc le frère magicien. Il y a aussi Aaron Paul qui joue Todd Chavez, le coloc et ami de BoJack, un type un peu allumé et totalement chill, très amusant à regarder. Aaron Paul bien sûr qu'on retrouve dans Breaking Bad. Il y a aussi Alison Brie qu'on retrouve dans Community, récemment Glow dont je parlerai plus tard, mais aussi Mad Men qui joue Diane Nguyen qui est une ghostwriter, aussi une féministe très forte et une intellectuelle de la côte Est américaine, voilà, un peu stéréotypée. C'est la copine du rival de BoJack, qui s'appelle Mr. Peanut Butter, qui est un chien jaune joué par Paul F. Tompkins, qui est un comédien relativement prolifique dans le monde des séries, du film et aussi des podcasts. Est
capable de jouer un chien jaune.
Voilà, exactement. Et enfin, Amy Sedanis, qui puis joue Princess Caroline, qui est un chat rose, ami, ex et manager de BoJack. Alors, la particularité de cette série, je pense que vous l'avez compris, n'est-ce pas Rémi, c'est que ce sont des animaux anthropomorphiques mélangés à des êtres humains dans notre univers actuel que nous connaissons avec quelques modifications pour l'humour et bien sûr pour la satire. Alors, le fait d'avoir utilisé des animaux anthropomorphiques, c'est pas juste un gimmick, c'est vraiment utilisé. Par exemple, on a un épisode qui se passe totalement sous l'eau, du coup, c'est tout un nouvel univers, tout un nouveau monde, où BoJack Horseman va faire des signatures dans un monde subaquatique, obligé de porter, bien sûr, un scaphandre, et à chaque fois qu'il signe quoi que ce soit, et ça s'efface à cause de l'eau, etc. Du coup, cet univers anthropomorphique, d'animaux anthropomorphiques, est vraiment pris en compte sérieusement. Même si au début c'est assez étrange, en fait on se rend compte que ça sert l'histoire la plupart du temps. Alors oui, c'est une série où faut s'accrocher, hein, je le préviens tout de suite. Les blagues sont assez spéciales sur énormément de registres, notamment des blagues sur les people, des blagues pleines de références, mais parfois c'est juste de l'humour physique, hein, avec par exemple un des personnages qui dévale une piste de ski en faisant une boule de neige, hein, c'est très débile mais ça fait rire. Il y a aussi beaucoup d'humour situationnel qui joue énormément sur l'absurde, sur l'absurdité des situations. Bref, ça donne un mélange à plein de niveaux qui fait que cette série, c'est pas facile de s'y accrocher rapidement, notamment à cause de cet humour. En plus, la série a un côté extrêmement sérieux, hein, l'humour est aussi très ironique sur des sujets graves, et la série touche à des questions profondes d'amitié, d'amour, de culpabilité et d'ennui quasi métaphysique. Cette série va vous faire rire avant de pleurer pour rire à nouveau avant de commencer à vous poser de sérieuses questions sur qui vous êtes vraiment. Tout ça avec pourtant un pitch extrêmement simple. Alors de quoi ça parle ? Eh bien, BoJack Horseman est une ancienne star d'un sitcom des années 80-90 qui peine à faire face au fait qu'il risque de tomber dans l'oubli après 18 ans d'années d'inactivité. C'est pour ça qu'il décide d'écrire une biographie, mais il n'y arrive pas et du coup fait appel à Diane Nguyen, qui est donc son ghostwriter, qui deviendra son ami et peut-être plus, c'est assez ambigu, etc. Entre autres, il en profite aussi pour se noyer dans l'alcoolisme. Il traîne avec lui des séquelles d'une enfance difficile, du monde du show business et aussi des fantômes de relations passées, abandonnées ou jamais vraiment nettement finies. C'est donc une série qui est un drame, hein, faut l'avouer, ça se vend comme une comédie mais ça reste un drame, qui suit vraiment la vie du personnage principal. Il n'y a pas de complot, d'intrigue politique, d'action, de grand retournement de situation ou quoi que ce soit. On se concentre vraiment sur des relations et des souvenirs pour construire des personnages et les développer. Ce sont donc des personnages qui se retrouvent dans des situations extrêmes, voire excessives, des personnages eux-mêmes qui se retrouvent poussés dans des identités extrêmes par le milieu dans lequel ils évoluent, qui est sans pitié. Tout est extrêmement fort, l'humour tout comme le sérieux. Chaque saison apporte son lot de problèmes et de demi-solutions. Du coup, c'est vraiment la vie de BoJack Horseman qu'on suit. Et la saison 3 apportait une bonne fin qui aurait pu mettre fin justement à l'histoire que l'on raconte de BoJack Horseman. Mais la saison 4 a repris lentement jusqu'à arriver à une fin extrêmement forte et on attend la saison 5 qui a été validée il y a quelques semaines. Du coup, je recommande vivement cette série pour sa critique sociale et la construction des personnages, mais je dois avouer que ce n'est pas facile du tout de vraiment rentrer dans cette série, même si les dessins sont beaux, comme toujours. Du coup, amateurs de ressentis intenses, essayez donc.
Merci, Pierre.
Voilà, et nous terminons donc avec quelques petites suggestions de sortie pour cette semaine. Alors j'avais annoncé Anastasia et Occitane, Anastasia a dû fuir le studio. Nous nous retrouvons donc tous les deux et je commence tout de suite avec Jeannette, l'enfance de Jeanne d'Arc de Bruno Dumont. Le film de Bruno Dumont qui était passé finalement assez inaperçu à sa sortie, contrairement à ce qu'on pouvait croire. Et qui se passe donc à Don Rémy en 1425, où Jeannette n'est pas encore Jeanne d'Arc, mais à 8 ans, elle veut déjà bouter les Anglais hors du royaume de France. Inspirée de Charles Péguy, la Jeannette de Bruno Dumont revisite les jeunes années d'une future sainte sous la forme d'un film musical à la BO électro-pop-rock signé Igor, et aux chorégraphies de Philippe de Coufflet. C'est au cinéma Opéra toute la semaine, jolie petite salle du centre-ville pour ceux qui voudraient voir ce film avant qu'il arrête de passer en salle.
Et du 29 au 1er, au cinéma Comédia, c'est la reprise de L'Acide 2017. L'Acide, c'est l'association des cinéastes indépendants La cite bénéficie également de sa propre programmation parallèle au Festival de Cannes depuis 1993. Élaborée par une quinzaine de cinéastes de l'association, cette programmation reflète une certaine diversité d'approches, de mise en scène, de narration et de genre. Ces cinéastes ainsi que les équipes de films seront présents pour en discuter avec les spectateurs après les projections. Entre autres, il y aura par exemple le très attendu premier film de Vincent Macaigne, le metteur en scène, pour le réconfort.
Et acteur. Je continue avec un film chinois, Mountain Cry, de Larry Yang, qui raconte l'histoire des membres d'une communauté très soudée d'un village de montagne qui cherchent à comprendre le passé d'une femme muette suite au décès accidentel de son mari, puis tombée amoureuse du meurtrier de ce dernier. Car pour être béni, cet amour interdit a besoin de sa voix pour être entendu, un film qui n'était pas sorti en salle à ma connaissance et qui en tout cas passera dans le ciné-club chinois du cinéma Les Alizés ce 28 septembre.
Pendant ce temps, à l'Institut Lumière, la rétrospective chef-d'œuvre du 21e siècle continue avec plusieurs projections de Parle avec elle d'Almodovar. Le cycle Tarkovsky également, avec Nostalgia vendredi et Stalker mardi. Et il vous reste une dernière chance de voir Kill Bill, les deux volets, jeudi.
Voilà, ce jeudi 28, demain donc, si vous nous écoutez dès notre sortie. Et puis, pour terminer, Le Caire confidentiel, 120 battements par minute et Faute d'amour, que nous avions traité dans de précédents numéros, sont encore en salle, par exemple chez nos amis des Cinémas Lumière. N'oubliez pas donc d'aller les voir après, bien sûr, avoir écouté nos émissions. Voilà, d'étoiles plein les yeux, c'est terminé pour ce 66e numéro. Aujourd'hui, vous aurez donc entendu Occitane, Anastasia, Pierre, Sarah, Eva et puis donc moi, Rémi. Vous nous retrouverez dès la semaine prochaine avec entre autres Le Redoutable de Michel Hazanavicius et puis peut-être, qui sait, un autre film. D'ici là, bonne semaine à toutes et à tous dans les salles obscures et puis n'oubliez pas de passer à notre assemblée générale demain soir, donc si vous n'êtes pas, bien sûr, allez voir Kill Bill.